Aujourd'hui, je voudrais rétablir la mémoire d'un des principaux jansénistes dont la réputation a été entachée parce qu'on l'a mêlé avec ceux qui l'ont suivi. Et ce sont les dernières découvertes que l'on peut lire, d'ailleurs, dans ce merveilleux dictionnaire qu'on appelle le dictionnaire de la spiritualité catholique. Immense dictionnaire, en d'immenses gros volumes, c'est incroyable le travail qu'ont accompli les historiens et les spécialistes de la spiritualité dans ce dictionnaire, donc, de la spiritualité catholique. Le jansénisme est d'ailleurs une question extrêmement difficile à fouiller. Mais c'est extrêmement intéressant parce que nos parents, nous-mêmes, on a été entachés un peu de certains reflets de ce jansénisme pénible dans l'histoire du catholicisme. Ce jansénisme qui a été condamné par l'Église dès le XVIIe siècle et vertement, le jansénisme a toujours été rejeté par l'Église, mais malgré elle, certains de ses membres, parmi les plus importants, ont été entachés. C'est pour dire tout de même que le jansénisme a provoqué un renouveau spirituel. Le jansénisme a réactualisé tout un débat théologique. Sur quel problème? Sur un problème extrêmement important qui demeure important, à savoir l'intervention de Dieu, ce qu'on appelle la grâce divine. Et puis dans le temps où ça s'est déroulé, ça c'est-à-dire au XVIIe siècle, eh bien la politique s'est mêlée là-dedans, et particulièrement le cardinal de Richelieu. L'un des jansénistes, ou du moins des gens qui ont été touchés par le mouvement janséniste, et par Jean Duvergier de Orane, dont il sera question, qu'on appelle plus communément l'abbé de Saint-Cyran, du nom d'une abbaye qui lui avait été offerte par l'évêque de Poitiers, une abbaye pas loin de Poitiers, un peu vers l'est, là, en Brenne. Et cette abbaye de Saint-Cyran lui rapportait de l'argent, quoi. Il était abbé commendataire. C'était un prêtre. Et souvent, les prêtres, comme ça, avaient des revenus qu'ils retiraient des abbayes. C'est terrible quand on y pense. Mais c'était comme ça. Donc, l'un des principaux personnages de ce temps qui était mêlé à tout ça, c'est Blaise Pascal, le grand Blaise Pascal, qui disait, vous vous souvenez, « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. » Et ces pensées animaient beaucoup les jansénistes. C'était un mouvement de controverse, donc, sur la grâce, mais aussi sur la liberté de l'homme et de la femme, évidemment. La liberté de l'homme, c'est-à-dire le libre arbitre humain, comme on dit. Ça se poursuivait, ça, depuis quand? Mais depuis Saint-Augustin. Les protestants, un siècle plus tôt, au XVIe siècle, ont été au cœur de tout ce problème. Et c'est de là qu'est né en bonne partie le protestantisme. Le libre arbitre, la conception que l'on se fait du libre arbitre, et de ce qu'on appelle aussi la prédestination. Est-ce que Dieu nous prédestine? Est-ce que Dieu a tout réglé le problème avant qu'on naisse, pour ainsi dire, au sujet de notre avenir et de notre de ce qui nous arrivera pendant l'éternité? Sommes-nous prédestinés? C'est toute une grave question, mais c'est sûr que nous ne sommes pas prédestinés à ce point-là. Nous sommes libres. Et donc, en 1588, donc vous voyez, le protestantisme, disons, c'est 1520, et puis l'anglicanisme, 1532-33, et plusieurs mouvements protestants, c'est dans les environs de ces dates-là. Et alors, en 1588, il y a un jésuite qui s'appelait Molinard, qui est mort en 1600, lui, 12 ans plus tard. Bon, donc en 1588, il a soutenu qu'une grâce suffisante est accordée par Dieu à tous les hommes, et que chacun demeure libre de l'utiliser ou non. Mais un Hollandais, Jan Senius, d'où vient le nom de jansénisme, qui était évêque d'Ypres, a défendu une thèse contraire dans un ouvrage qui a été publié peu après sa mort, s'appelle l'Augustinus. Et cet ouvrage, on dit que Duvergier de Orane, dont il sera question aujourd'hui, l'abbé de Saint-Cyran, il y aurait participé. C'est moins sûr. Alors, dans ce livre, on dit que le péché originel, depuis le péché originel, ben l'homme ne peut faire le bien sans le secours de la grâce efficace. Mais celle-ci n'est pas accordée à tous, prétend ce livre. Et cette théorie a été condamnée par l'Église catholique. À Paris, Jansénius, donc, s'est lié de grande amitié avec Duvergier de Oran, l'abbé de Saint-Cyran, qui est mort un 11 octobre en 1643. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir dans l'Église comment on élimine parfois de grands hommes. Et cet homme était assez grand, avait de grandes qualités, au point que quand il est mort, il y avait une telle foule à ses funérailles qu'on ne saurait dire exactement, voyez, dans le dictionnaire de théologie catholique, on raconte que ses restes ont été enterrés à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, donc à Paris, au milieu d'un immense concours de fidèles, et en présence de tous les archevêques et évêques alors à Paris, et son tombeau fut bientôt un lieu de pèlerinage. Et l'épitaphe de cet abbé de Saint-Cyran vantait sa haute science, sa profonde humilité, son zèle très ardent pour l'unité de l'Église, pour la tradition des pères de l'Église. Il allait puiser chez les pères de l'Église. C'est un savant. Et on ajoute sur l'épitaphe pour les vérités qu'il avait acquises de l'Antiquité. Or, chose étrange, en décembre 1643, juste avant, juste après sa mort, deux mois après sa mort, eh bien, le pape Urbain VIII publiait une bulle, In Eminenti, qui condamnait les doctrines fondamentales et l'œuvre de Saint-Cyran, en attendant une autre bulle. On peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi tant de monde sérieux autour de sa tombe quand il meurt, et cette condamnation deux mois après? Étrange, étrange question, et tout ça a été analysé de nos jours par d'importants historiens, dans le dictionnaire de spiritualité catholique. J'essaie de vulgariser tout ça, c'est très savant, mais c'est très important parce que ça nous montre, dans un sens, combien notre histoire, parfois, ternit la réputation de certaines personnes, et en vante d'autres, on se demande au juste s'ils devraient être vantés. Il faut clarifier notre histoire. Donc, notre Saint-Cyran est devenu en 1634, à l'âge d'un peu plus de 50 ans, directeur des religieuses de Port-Royal, le fameux couvent de Port-Royal où tout le drame du jansénisme était concentré. Il a réformé ce monastère avec l'aide de la mère Angélique Arnaud, la fameuse Angélique Arnaud, dont je vous parlerai peut-être un jour. C'est un curieux personnage chrétien. Mais il a été dénoncé par les jésuites. Et l'abbé de Saint-Cyran a été enfermé à la Bastille par le cardinal Richelieu, puis il est mort peu après sa sortie. Il est sorti, puis il est mort. Et l'austérité qui régnait là, dans les deux monastères de Port-Royal de Paris et Port-Royal des Champs y a attiré nombre de gens très dévots qui appartenaient au grand monde, dont Blaise Pascal. Et pour leurs enfants, ont été créées les petites écoles. C'est là qu'a été élevé, on parle beaucoup des écoles catholiques de nos jours, c'est là qu'a été élevé dans cette école particulièrement religieuse, Jean Racine, l'auteur des grands théâtres français. Jean Racine, avec Corneille. Et après la mort de Saint-Cyran, Antoine Arnaud, qui était le frère de la mère Angélique, qui était un des grands jansénistes, s'est fait le défenseur combatif de la doctrine de Jansénius, lui qui était attaqué par les jésuites. Et en 1653, cinq propositions qui étaient tirées là, de ce livre ont été condamnées par le pape. Hein. Les jansénistes ont été secondés par Blaise Pascal. Il a écrit des choses, j'ai déjà lu ça dans les provinciales. C'était à l'index quand j'étais jeune, on n'avait pas le droit de lire ça. Mais mon père avait ça dans sa bibliothèque, mais là je les ai repris, on a le droit aujourd'hui de lire ça. Et les provinciales de Blaise Pascal ont connu un énorme succès. Pascal dans ces lettres qu'on appelle les provinciales, c'est des lettres, s'y attaquer avec force, hein, on pourrait dire, à cette espèce de relâchement dont il accusait les jésuites en question de morale et de confession. Parce que les jésuites étaient souvent les confesseurs de qui? Des grands, c'est-à-dire des nobles, les ducs, les princes et tout ça. Puis les jésuites résolvaient beaucoup mieux leur cas de conscience. Le roi, d'ailleurs, se conduisait très mal. Combien de... Dans Louis XIV, grand Dieu, on dit qu'il aurait eu 54 maîtresses. Il aurait eu je ne sais combien d'enfants illégitimes. C'était incroyable. Pouvait-on donner la communion à de tels hommes, hein? Mais les jésuites étaient bien mal pris, ils étaient les confesseurs. Alors, le débat autour de tout ça est devenu politique. Et puis, c'est que Louis XIV était dominé par les jésuites, qu'il aimait bien. Puis il était inquiet de voir opposé à l'autorité, à son autorité, et aussi à l'autorité du pape, les droits imprescriptibles de la conscience, d'avoir une conscience rigide, décidé. Alors finalement, bien, ils ont été condamnés, les jansénistes. Ils avaient d'autres raisons aussi d'être condamnés, ils ont été vaincus, bien que soutenus par une grande partie de l'opinion. Hein. En tout cas, les jansénistes ont joué par la suite un rôle bien important dans la lutte contre le pouvoir arbitraire qui devait aboutir finalement à la révolution. Et ils sont un peu à la source d'une partie de la Révolution. Ce Jean Duvergier de Oran, qui est un des, donc des fondateurs du jansénisme, et on peut dire son premier apôtre en France, est né à Bayonne en 1581, puis il est mort, je vous le rappelle encore, le 11 octobre 1643, et nous verrons un peu en résumé sa vie, et ensuite, quelles sont les corrections qu'on peut apporter à tout cela. Et c'est ce que je ferai aussi lundi au sujet de Pie XII, car je vais prendre aussi la défense de Pie XII, qui est si souvent considéré comme un pape qui a eu de grands torts. Il naît à Bayonne, il fait ses études de théologie à Louvain, qui était réputé. C'est là que commence son amitié avec Jansénius. Une amitié que 12 années de rapport quotidien, une grande complicité dans les projets, vont rendre inébranlable. Dans cet amitié, c'est lui qui va jouer le rôle prépondérant, dit le dictionnaire de théologie catholique, qui essaie de l'attaquer et qui est paru dans les années 20. Mais dans les années 90, le dictionnaire de spiritualité catholique renverse un peu ces questions-là. Je vous lis donc la vie telle qu'elle était enseignée dans notre jeunesse, telle qu'on l'a apprise. Et en vers 1605, il est encore assez jeune, il n'a que 24 ans, il revient à Paris. Jansénius le rejoint là. Comme il est sans fortune, ce Jansénius Duvergier lui procure une place de précepteur qui le fait vivre, et tous deux suivent les cours de Sorbonne. Ce qui occupe surtout nos deux amis, c'est l'étude de saint Augustin. Il s'agit de rien de moins que de régénérer le catholicisme. Ils ont de grands et nobles projets, hein. Ils veulent le détourner des scolastiques secs pour le rapprocher des pères de l'Église. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait depuis 50-75 ans. Ils veulent faire revivre en particulier la pure doctrine de la grâce d'après le Père qui l'a le mieux exposé, saint Augustin. D'ailleurs, je vous en ai glissé un mot, les protestants le reprocheront à ce sujet de s'être arrêté à mi-chemin et de n'être pas allé directement à l'Écriture, à la Bible. Et dès ce moment donc, ils préparent tous les deux l'Augustinus, ce livre qui fera tant de bruit. Ça va durer 6 ans. En 1617, le nouvel évêque de Tours, c'est Monseigneur Bertrand Deschaux qui succède à Monseigneur Gabgay, alors il quitte Bayonne à ce moment-là. Et Jansénius retourne à Louvain. Notre ami de Oran, l'abbé de Saint-Cyran, après un court séjour à Paris, se rend à Poitiers, sur la recommandation justement de l'archevêque de Tours. Et puis, l'abbé de Saint-Cyran, qui n'est pas encore abbé de Saint-Cyran, s'il s'appelle de Oran, devient grand vicaire. Il est très estimé. En 1620, il a presque 40 ans, il se démet de ce prieuré en faveur de son neveu et devient abbé de Saint-Cyran, à la frontière du Berry, du Poitou, de la Touraine. Et puis, à Poitiers, par l'intermédiaire d'un homme très important qui est très lié avec l'évêque, il a rencontré Armand Duplessis, évêque de Luçon, qui va devenir le cardinal Richelieu. Il rencontre aussi Arnaud d'Andilly, personnage extrêmement important chez les jansénistes, qui le met en relation avec toute sa famille, et particulièrement avec la mère Angélique Arnaud. Alors, il est en correspondance avec Jansénius. Il poursuit ses études sur Saint-Augustin. En 1621, il va le voir à Louvain, puis leur amitié grandit, mais ils établissent finalement une espèce, dit le dictionnaire de théologie catholique, d'il y a 70 ans, qu'il y a là une conspiration. Et on dit que 6 personnages se seraient rencontrés dans l'été 1621 à la Chartreuse de Bourgfontaine. Mais aujourd'hui, on se demande si tout ça est vrai. On ne le croit plus. On croit que ce sont des racontars pour les dénigrer. De 1605 à 1621, Saint-Cyran fait paraître 2 brochures qui révèlent en lui un esprit paradoxal et bizarre. La première, dit-on, qui répond à une question posée par Henri IV à ses courtisans, et qui a pour titre complet « Question royale, où est montré en quelle extrémité, principalement en temps de paix, le sujet pourrait être obligé de conserver la vie du prince aux dépens de la sienne, c'est-à-dire qu'il pourrait prendre les armes. » Ça jette un peu de discrédit sur lui. Vers 1622, se termine la première période de la vie de Saint-Cyran. Il sait la réforme qu'il veut et par quel moyen il la réaliserait. C'est alors qu'il se fixe à Paris, où son action peut être plus féconde. Et il va toujours refuser de quitter Paris. Il écrit surtout, il agit pour préparer le succès de l'entreprise qui est celle de sa vie. De toute façon, on peut dire que les doctrines essentielles du jansénisme, c'est que l'Église n'est pas une monarchie, mais une aristocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Au milieu des évêques, qui sont ses égaux par l'autorité, le pape n'est le premier que par la dignité. Comme quoi, ils veulent garder leur pouvoir et ne plus se soumettre au pape. Il y a un courant dans l'Église actuellement comme ça. On revient donc à ça. Étrange chose, hein? Le livre qu'il a publié, l'Aurelius, relevait aussi l'autorité des curés. Les curés avaient plus d'autorité en face de l'autorité de l'évêque. Parce qu'ils sont comme lui, disait-il, les autres, les jansénistes, les sujets du sacrement de l'ordre et les dispensateurs des sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Enfin, son livre proclamait la supériorité de l'esprit intérieur. Tendait à affranchir les justes puis les élus de l'autorité. C'est là que on en arrive presque à du protestantisme. Ce livre a été très discuté, puis l'Assemblée du clergé de 1635 l'a approuvé, puis lui a alloué une somme importante, c'est étrange, mais ce livre, l'Aurelius, a rencontré par contre une opposition puissante, de la part des jésuites naturellement, puis aussi de certains évêques comme le cardinal de la Rochefoucauld. Il a été fort malmené d'ailleurs dans l'ouvrage, le cardinal de la Rochefoucauld. Alors, ses adversaires ont obtenu de Louis XIV la saisie de l'édition 1642, puis en 1656, donc 14 ans plus tard, c'était condamné formellement. Le livre, l'Aurelius, était condamné, et puis tout ce qui faisait l'éloge de Jansénius et de Saint-Cyran, ça a été blâmé. L'Aurelius, c'est la préface de l'Augustinus, et le titre l'indique, Saint-Augustin s'appelait Aurelius Augustinus. Et l'Aurelius est destiné à gagner les évêques. Et parmi ceux qu'il cherche à gagner, il y a le fameux père de Bérulle, très très grand maître de la spiritualité de l'école française. Il y a aussi Saint-Vincent de Paul. Et avec eux, il aurait acquis une place d'armes, et une armée même, hein? Mais Saint-Vincent de Paul ne se laisse pas tenter. Mais Bérulle, lui, n'est pas aussi ferme à défendre ce qu'on appelle l'oratoire. Du moins, la vraie conquête de Saint-Cyran n'est pas là, dit le dictionnaire de théologie catholique. Ce fut Port-Royal puis les Arnauds qui sont coupables. Et depuis qu'il connaissait Arnaud d'Andilly, il n'était pas un étranger pour la mère angélique. Mais trêve de détails, ce qui est pénible, ce qui est triste, c'est de penser que cet homme se laisse prendre par tout un courant, mais il meurt avant d'être vraiment coupable. D'ailleurs, auprès du lit de mort de la tante d'Andilly, là, il a entendu les exhortations... Le neveu d'Andilly a entendu les exhortations de Saint-Cyran. Et puis, c'était un dénommé Le Maître. Il était pris de peur des jugements de Dieu, puis s'est mis entre les mains de ce directeur et a refusé, ce monsieur Le Maître, la place d'avocat général que lui offraient les autorités. Il a renoncé complètement au barreau, puis il a quitté le monde. Cette grande conversion a engendré l'apparition des solitaires, c'est-à-dire de laïcs qui vivaient de façon très très stricte autour de l'abbaye de Port-Royal. Et tout ça a jeté le discrédit sur eux. Mais au matin du 15 mai 1638, à 57 ans, Saint-Cyran finalement était arrêté par les ordres de Richelieu, était enfermé à Vincennes en banlieue de Paris. Et puis on ne connaît pas de façon certaine le motif déterminant de cette arrestation, mais on sait que les conversions qu'il exerçait et les gens qui allaient trop loin dans la pratique peut-être de la pénitence ont jeté le discrédit sur eux, mais surtout les oppositions qu'ils avaient contre la décadence de la cour. Et nous verrons tout à l'heure comment tout ça s'est rétabli au XXe siècle grâce à un grand historien du dictionnaire de spiritualité. Saint-Cyran, je vous l'ai dit, a été entaché par l'histoire jusqu'à tout récemment. Mais aujourd'hui, grâce à Michel de Certeau, qui n'est pas n'importe qui est malheureusement décédé, il avait publié, lui, de Saint-Cyran au jansénisme, comme quoi il distinguait Saint-Cyran du jansénisme. C'était dans la revue Christus, en 1963. Mais l'ouvrage le plus important que tout renouvelait la question est paru... un peu à la même époque, d'abord à Louvain en 1948, mais aussi en 1962. C'est l'ouvrage de Orcival, qui s'appelle « Origine du jansénisme ». C'est dans le tome 2, « Saint-Cyran et son temps ». Et c'est dommage qu'un si grand homme, donc, ait été entaché jusqu'à tout récemment. De toute façon, la courte biographie que je viens de vous donner, ici à Rencontre spirituelle, ça ne doit pas dissimuler les aspects obscur, puis discuter de cette personnalité de Saint-Cyran. C'est un caractère entier. Et c'est le dommage qu'ont les saints souvent quand ils ont des caractères entiers. Il n'était peut-être pas saint, mais il avait la réputation de l'être. Et ça dissimule pas non plus ses contradictions, peut-être des paradoxes, des animosités aussi qu'il a soulevées, qui sont aussi nombreuses que ses amitiés. Mais quels sont les pères de l'Église qui n'ont pas soulevé des inimitiés, hein? En tout cas, c'est un point délicat et controversé. Et l'historien Orcival, tout en reconnaissant ses ombres, il souligne plutôt la lente ascension, parsemée de rechutes, de Saint-Cyran. L'orthodoxie de ses écrits, oui, l'orthodoxie de ses écrits, surtout la hauteur d'une spiritualité qui fait de l'abbé un des bons spirituels de l'école française et qui élargit singulièrement l'image trop étroite, qui ne voit en lui que l'instaurateur discuté du mouvement janséniste. C'est pas peu dire, ça vient d'être publié, ça, au début des années 90, hein? Dans le dictionnaire, je vous le rappelle, de spiritualité. La vie de Saint-Cyran est donc une lente et difficile évolution spirituelle, que confirme une étude aussi de Philippe Sellier, qui est consacrée à la rhétorique de Saint-Cyran. Il analyse, lui, la conversion rhétorique de cet abbé de Saint-Cyran. Pour Sellier, d'ailleurs, Saint-Cyran est un bon représentant de la théorie de l'enthousiasme. Ce qui nous manque le plus, c'est ça, l'enthousiasme. Pour comprendre la spiritualité de Saint-Cyran, donc il faut le dépouiller de l'image qu'il doit à toute l'évolution qui est venue plus tard là, du mouvement janséniste et qu'il a contribué peut-être à faire naître, il faut l'avouer. Il faut aussi considérer que sa spiritualité, qui est si belle, semble ne s'être vraiment définie qu'à cet art et qu'elle s'est perpétuellement enrichie puis approfondie. Et c'est tout le sens de cet ouvrage de Orcibal, La spiritualité de Saint-Cyran, avec ses écrits de piété inédits, paru en 1962 à Paris, et qui présente un homme d'action. Saint-Cyran, c'est un homme d'action, qui accède peu à peu à une spiritualité élevée, et à un statut de directeur spirituel hors de pair. Ça ressemble un peu à Jules Montchanin, qui était si actif, et qui atteint petit à petit une spiritualité extrêmement élevée de contemplatif. On ajoutera à ces analyses quelques considérations d'ailleurs sur le rôle de Saint-Cyran dans l'entreprise de Port-Royal, l'abbaye de Port-Royal, où qui était cette entreprise de traduire la Bible, de traduire les textes liturgiques, afin que les gens comprennent. À Port-Royal, oui, étrange, hein, chez ces jansénistes, c'est ce qu'ils voulaient. Et ils remettaient en cause aussi la relation entre clercs et laïcs. Dans ce dictionnaire de théologie catholique que je vous ai lu tout à l'heure, qui date en principe de 1924, mais l'œuvre de Saint-Cyran est présentée, je ne vous ai pas tout lu ces textes-là, comme une conspiration à l'origine du jansénisme. J'ai parlé de la conspiration, oui. On dit que l'auteur est un esprit paradoxal et bizarre, ça je vous l'ai lu, ambitieux, autoritaire, peu souple. On prétend aussi que Saint-Cyran est responsable du gallicanisme, c'est-à-dire de cette espèce de séparation, quasi-séparation de l'Église française, de l'Église de Rome. Et puis, on dit que sa direction était singulièrement austère et intransigeante, et que ses principes étaient jansénistes, en tous les cas. On dit qu'il a été arrêté aussi pour son orthodoxie douteuse, pourtant, on reconnaît aujourd'hui qu'il était très orthodoxe, très vrai. Enfin, Saint-Cyran a fait de l'Augustinus le but de sa vie, dit-on, avant de lancer les Arnauds dans la mêlée. Bref, dans le dictionnaire de théologie catholique, on dit que l'abbé n'est analysé qu'en fonction des conflits ultérieurs, des conflits qu'ont eus ses successeurs. Et l'historien Orcibal rectifie tout ce point de vue. Saint-Cyran, c'est qui? Il est d'abord marqué fortement par Bérulle. Bérulle, c'est à la même époque que Ollier, que Condran. Il doit d'ailleurs sa conversion à Bérulle. Une conversion intérieure, profonde. Tout un aspect de sa spiritualité est repris de la mystique dionysienne, comme on l'appelle, et du néo-platonisme, c'est-à-dire l'incompréhensibilité de Dieu. L'incompréhensibilité de Dieu, c'est pas nouveau. On trouve ça chez Maître Eckhart. L'anéantissement de la créature, avec le double néant de l'homme face à Dieu et sur le plan moral, et l'importance du rôle de la grâce. On retrouve chez lui les thèmes du Verbe, seul parfait adorateur, c'est ce qu'on trouve à la messe. C'est en s'unissant au Fils éternel de Dieu qu'on peut offrir le sacrifice de la messe, c'est l'enseignement de l'Église. On retrouve chez lui les thèmes aussi de l'Église, corps mystique, où l'Eucharistie transforme le chrétien dans le Christ. Il y a aussi le thème de l'entremise de la Vierge et des saints, qui est conçu sur le mode de la médiation, qui est repris par Bérulle, l'intercession des saints, de la Sainte Vierge. Saint-Cyran sera aussi un apôtre du sacerdoce. Oui, on parle si peu des prêtres aujourd'hui, mais lui, il en parlait. Et il disait que l'évêque n'est pas de nature supérieure au prêtre. Faudrait étudier ça, hein? Il disait, la Vierge est ipsa sacerdos, elle-même prêtre. Et tous les chrétiens, disait-il, sont prêtres. Là, on entend des protestants qui nous disent ça. Nous sommes tous prêtres. Mais c'est vrai, c'est dans les Écritures. Nous sommes tous prêtres, mais comme il disait, lui, Saint-Cyran, prêtres, les laïcs, prêtres imparfaits, ou prêtres commencés. C'est ainsi que nous célébrons avec le prêtre. On dit que le prêtre est président de l'assemblée. Il préside notre assemblée et nous offrons avec lui le saint sacrifice de la messe, mais sans lui, notre foi nous enseigne qu'il n'y aurait pas de messe. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le pouvoir, mais nous le partageons. C'est autre chose, hein? La spiritualité qui découle de ces considérations se caractérise par un devoir d'adoration, une donation intérieure, où le fidèle entre, comme il l'écrit, par vertu dans ce rien qui nous convient par nature. Une autre caractéristique est que chaque âme a un mystère auquel Dieu l'a fait communier en une opération mystique. Il a écrit de très belles choses, ce Saint-Cyran. D'autres grandes orientations de la spiritualité de Saint-Cyran sont dues à qui? À Saint-François Sales. C'est chez lui qu'il puise, semble-t-il, ses définitions pour une vie du chrétien dans le monde et pour une pastorale active. L'historien Orcibal souligne le tour très très près de François de Sales de la purification psychologique que, selon Saint-Cyran, le chrétien doit pratiquer dans le monde. La dévotion ne se réduit pas aux dévotions, c'est-à-dire à des jeûnes, des mortifications, par exemple. Il écrit, c'est une piété intérieure qui doit nourrir la plénitude de la volonté. Que c'est beau, ça. Je ne sais pas si vous avez compris, ça c'est superbe. C'est une piété intérieure qui doit nourrir la plénitude de la volonté. C'est Saint-Cyran qui dit ça. À partir de cette base solide et quotidienne, mais l'abbé de Saint-Cyran peut définir le chrétien comme un religieux astreint à une occupation continuelle, tout orienté à Dieu, pour y vaquer au mieux. Saint-Cyran prône pour aider le chrétien la retraite dans le silence et la solitude. Et cet autre point est très important à cause des applications concrètes que lui a donné Saint-Cyran. Puisqu'à côté des clercs séculiers réformés, et qui sont des religieux qui observent des règles strictes, et des chartreux qui sont des ermites et qui étaient très populaires à l'époque, l'abbé de Saint-Cyran a suscité la communauté des messieurs, c'est-à-dire les solitaires, qui ont un statut si particulier, ni clerc ni laïc. On a vu tout à l'heure qu'il avait converti comme ça un des avocats les plus importants, le maître, qui est devenu un de ces messieurs. Ça semble révéler des réserves à l'égard des instituts traditionnellement reconnus dans l'Église. C'est comme si il était contre des ordres religieux, mais pas du tout. Il faut voir encore là une des innovations qui, à long terme, vont secouer l'Église catholique dans la revendication d'un nouveau statut du laïc en face du clerc. Hein? Et c'est encore sous l'influence de François de Sales que l'abbé de Saint-Cyran enseigne la patience, les vertus négatives, et dans le monde, là, le choix étrange de la souffrance, l'ascèse. Il lui doit aussi sa conception exigeante de la vocation du directeur. Le directeur a une vocation très, très exigeante. L'appel de Dieu se fait, dit-il, par des sentiments secrets, par des signes sensibles. Et le danger du luminisme souvent reproché à Saint-Cyran est ici, évidemment, assez net, mais l'historien, Orcibal, montre comment l'abbé de Saint-Cyran a pourtant essayé de définir le rôle et les limites en ses faveurs. Il dit que le directeur, qui est comme un dieu visible, dont la rencontre est déjà une reconnaissance, un appel réciproque, sera en même temps celui qui aide à reconnaître la volonté de Dieu dans les signes sensibles. Mais qui a un directeur aujourd'hui? Il y a de moins en moins de prêtres. Il y a l'oraison saint-cyranienne, comme on disait, qui n'est pas différente de la prière de Saint-François de Sales, celle que Saint-François de Sales enseigne. C'est la même chose. Prière continuelle, sans raisonnement ou concept, une prière du pauvre, faite de simples regards de l'âme et du cœur, d'un silence intérieur, où se font entendre les gémissements ineffables de l'esprit. Hein? Vous qui avez lu Saint-François de Sales, vous connaissez ça. Saint-Cyran est en conséquence réservé, lui, sur les consolations sensibles et sur les moyens humains. À côté d'une spiritualité du monde qui fonde l'humilité puis l'amour de Dieu, il semble plutôt favorable à une nuit mystique, faite de sécheresse, d'affliction et de désolation en attente de la béatitude. Il faut rendre donc à la spiritualité de Saint-Cyran son ampleur, sa richesse propre, en la rattachant aux grands maîtres de l'école française, à ses grands saints aussi. Et l'historien Orcibal la lave des reproches qui lui ont été adressés à partir des griefs formulés plus tard contre le jansénisme. Je pourrais vous parler de la question de la grâce, je pourrais vous parler de l'Église, mais je vous parlerai plutôt de sa spiritualité proprement dite, et nous allons lire une belle prière qu'a laissée l'abbé de Saint-Cyran. On a accusé l'abbé de Saint-Cyran de toutes sortes de choses, en particulier son hostilité à la théologie scolastique, à la raison, à la curiosité même dans le domaine profane comme dans le domaine de l'écriture. Mais l'attitude réservée de Saint-Cyran à l'égard des lectures profanes, façon profane de lire aussi la Bible, c'est celle même des spirituels de l'école française. Il était comme eux. C'est drôle, on n'accuse pas Bérulle, on n'accuse pas les autres, et on accuse Saint-Cyran de tous les torts. C'est surprenant, hein? Et c'était comme ça en France jusqu'au 18e siècle au moins. Il est même surprenant qu'on ait pu la lui reprocher. Tout ce que l'on peut dire, en tous les cas, c'est que ses réserves sont chez lui conformes à l'ensemble de son évolution vers une spiritualité et une dévotion élevée et séparée de la mondanité. Il se détache lentement de l'esprit qui, dans sa jeunesse, l'a guidé dans ses immenses compilations de livres. Et c'est un intellectuel. Hein? Et puis, l'évolution, plus tard, là, de Port-Royal sur ce sujet brûlant tout au long du XVIIe siècle, rend incertaine toute affirmation d'une influence de Saint-Cyran sur ses successeurs dans ce domaine-là. Puis il y a la question des sacrements. L'historien Orcibal montre que les accusations formulées semblent peu justifiées et que les analyses de Saint-Cyran sont celles mêmes des pères du Concile de Trente. Saint-Cyran insiste sur les fruits de la pénitence, ou de la confession, ou du sacrement de la réconciliation. Manifestation d'amour pour Dieu, communion avec Jésus-Christ, aussi pour la pénitence du mal. Et c'est une aide pour l'avenir, écrit-il. Pour la communion, mais contrairement aux accusations formulées contre lui, il avait été accusé d'en détourner les fidèles, de les faire communier deux fois par année. Saint-Cyran, au contraire, la recommande aux âmes fortes. Tous les jours, dit-il, en pain quotidien, il recommande la communion fréquente. On l'accuse du contraire, c'est étrange. Hein? En pratique, il définit pour ses dirigés une dévotion adaptée à chaque cas. Enfin, Saint-Cyran recommande la communion spirituelle et la lecture de l'Écriture, et c'est un point plus original, l'Eucharistie et Écriture, qui entretiennent, dit-il, un rapport merveilleux. En somme, c'est paradoxal. Hein? C'est paradoxal. Il y a un point aussi sur lequel il convient d'attirer l'attention, c'est le rôle très important joué par Saint-Cyran dans l'histoire des traductions bibliques en langue ordinaire, et indirectement des traductions des livres liturgiques aussi. Dans le domaine des traductions bibliques, qui pose alors de graves problèmes théoriques en face des décisions du Concile de Trente, on peut dire que l'Église est alors au moins réservée sur la question de l'accès des laïcs aux textes sacrés, on le sait. Hein? Et la question se pose en termes nouveaux, là. À partir du moment où apparaissent ces messieurs, là, les solitaires, les laïcs, qui sont quasiment des religieux, qui ne sont ni prêtres ni laïcs, et auxquels Saint-Cyran confie des tâches et reconnaît des aptitudes qui vont à terme, et sans qu'il ait peut-être envisagé encore que la réponse à cette interrogation reste incertaine, là, eh bien, qui vont à terme remettre en cause le statut du laïc. Il s'est passé, comme vous voyez, bien des questions et bien des problèmes. Hein? Saint-Cyran est à l'origine des innombrables conflits qui, en France, vont contribuer à faire naître un nouveau type de laïc. Et au-delà de la seule histoire religieuse, à faire évoluer les mentalités dans des directions de recherche critiques que vont ignorer longtemps les autres pays catholiques, étaient beaucoup plus avancés en France, grâce à lui. Il n'est pourtant pas permis d'affirmer qu'il ait pu envisager la portée du mouvement lancé. Lui qui pouvait encore écrire, « Quand nous lisons les livres saints, c'est Dieu qui parle à nous, et son Esprit Saint forme en nous notre prière, comme il a formé les Écritures. » C'est très beau, ça. Pourquoi condamner un si grand homme, hein? Si vertement, qu'il ait eu des des problèmes, c'est juste, mais on ne peut pas tout jeter ensemble. S'il est un point par conséquent où Saint-Cyran se révèle vraiment comme l'initiateur de pans entiers de la spiritualité de Port-Royal, c'est dans tout ce qui touche à la spiritualité du laïc qu'il tend sans conteste à rapprocher de celle du prêtre, du clerc. On l'a vu précédemment, tous les chrétiens sont prêtres, prêtres imparfaits ou prêtres commencés. C'est certainement par là que sur la fin de sa vie, sa spiritualité se distingue de celle des maîtres de l'école française qui sont, eux et leurs disciples, jusqu'à une époque récente, beaucoup plus respectueux des décisions du Concile de Trente en ces domaines. Alors que l'attitude nouvelle de l'abbé de Saint-Cyran, puis l'apparition de ses disciples à les messieurs, dont ils font de la spiritualité, constitue de facto une remise en cause de certains des aspects les plus profonds de toute l'ecclésiologie catholique. C'est Bossuet qui trouvait que, qui attaquait Saint-Cyran, qui trouvait qu'il n'y avait là que du galimatia dans la spiritualité de Saint-Cyran. Que traverse pourtant, disait-il, de si beaux éclairs et qu'anime une religion si profonde? Mais ses amis de Port-Royal à Saint-Cyran lui ont rendu un grand service en publiant des choses. Je vous lis ici une petite chose qu'il a écrite. « Il faut faire comme mourir les bonnes œuvres en Dieu. En se retirant dans la solitude, après les avoir faites, puisque c'est le seul moyen de leur donner leur dernière perfection. Car la mort qui se fait en Dieu est une vie, et pour les âmes, et pour les corps, et pour les bonnes œuvres. Voici la même pensée dans une prière. Je ne puis rien devant vous, ô mon Dieu, et vous êtes tout devant mes yeux. Je me trouve encore un néant, après être sorti par votre double miséricorde du double néant de la nature et du péché. Et je porte incessamment l'un et l'autre dans moi-même, par la continuelle défaillance que je sens. Je vous vois, ô mon Dieu, en figure dans l'océan, et vous êtes la vraie mère infinie de l'être, de la nature et de la grâce, non une mère mobile et coulante, mais immobile et permanente. En tous les siècles éternels, ô Dieu, vous répandez vos eaux volontairement, et comme il vous plaît, et les retirez de même, faisant faire à votre esprit des flux et des reflux ineffables et divins dans les âmes que vous aimez. Et il n'y a point d'autre vent qui souffle dans cette mer infinie que cet esprit divin. Je vois de mes yeux que les eaux qui croupissent et cessent tant soit peu de couler sur la terre et dans les canaux se corrompent. Ce qui me fait craindre que si mon âme retient un seul moment vos eaux et vos grâces, sans les faire retourner vers leur origine, ce moment auquel elles s'arrêteront en moi ne cause de la corruption dans mon âme. Oh, je reconnais, mon Dieu, par de notables expériences, qu'il est plus difficile de faire remonter vers vous la grâce de l'âme qui l'a reçue, c'est-à-dire vers la source, par un humble remerciement, que de l'attirer dans l'âme vers l'oraison, et qu'ainsi ces rejaillissements vers la source sont de plus grande grâce que ces effusions hors de la source. Ah, c'est pourquoi, mon Dieu, je vous demande cette unique grâce qui contient toutes les autres, que votre grâce ne s'arrête point en moi, qu'elle n'y descende jamais que pour remonter vers vous, et qu'elle ne remonte jamais en vous que pour descendre encore en moi, afin qu'éternellement je sois arrosé de vous et que vous soyez comme arrosé vous-même des eaux que vous verserez dans mon cœur. » Bossuet n'aimait peut-être pas ça, mais quand même, c'est très beau, c'est sublime. J'ai retrouvé ça dans Henri Bremont, « Histoire littéraire du sentiment religieux » dans le tome 4, « La conquête mystique ». Port-Royal, c'est en page 158, il y a 12 volumes, c'est dans le tome 4.